Bon, ben merci à Michael de nous avoir introduit avec la compréhension divine, j'allais dire, hein, cette approche qu'on a ici, non pas parce qu'on est de la santé, oui, mais aussi parce que Dieu est au milieu, hein, et qu'on a, on a besoin de repères. Merci à Sherazade, hein, qui nous a fait un superbe exposé. Je vais donc, parce que tu as une approche qui est très psy finalement, je dirais. Hein, donc je vais écrémer ce que j'avais préparé, puisque elle a beaucoup insisté sur ce nœud, je dirais, biopsychosocial, l'environnement, le produit, l'individu, tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément en psychologie, bien sûr, dans l'approche de la personne. Alors, si le pasteur est le spécialiste du spirituel et le médecin le spécialiste du soma, du corps, le psychologue apparaît comme spécialiste du psychisme. Mais vous voyez bien dans les différentes approches qu'on est un tout, hein, et que forcément on déborde les uns l'un sur l'autre dans notre approche de l'individu. Alors je vais plutôt rentrer, je vais quand même reparler un tout petit peu de l'addiction sans substance. Effectivement, on ne parle que de l'addiction au jeu, mais de plus en plus, dans le langage courant, on va utiliser ce terme pour des activités qui deviennent très envahissantes, hein, et qui n'ont pas un impact physique, même si il y en a quelques-uns, on grossit parce qu'on passe son temps avec des chips devant les jeux ou des choses comme ça, il y a quand même un impact, mais c'est surtout au niveau relationnel, comportemental, professionnel, etc., qu'il va y avoir des impacts. Alors il y a les jeux de hasard, les jeux de plateau comme le poker, les jeux en ligne, les jeux vidéo, hein, qui prennent une place énorme actuellement chez nos jeunes. Avec Internet, il y a aussi les réseaux sociaux. On peut être, addict de Facebook, hein, certains y passent 8 heures par jour, en travaillant par ailleurs, hein, c'est pas forcément des gens qui sont complètement déconnectés de la vie, hein. Les séries aussi peuvent absorber un emploi du temps. La pornographie, hein, on a un vrai problème qui n'est pas récent, hein, je dirais, qui est différent et qui est plus accessible par Internet. Alors, plus récemment, on y a ajouté, à tort ou à raison, des activités ou des passions qui ont évolué vers un esclavage incontrôlé. Hein. On dit addict au sport, addict au travail, addict... moi, j'ai une patiente qui c'est les achats, pour d'autres, c'est l'alimentation. Il y a le sexe effréné aussi, hein, où il faut absolument trouver quelqu'un pour la soirée, et quelqu'un de gratuit plutôt, donc c'est les réseaux, hein, c'est... adoptamec.com, Badou, etc., tous ces sites. Il faut que ça aille vite, hein, les femmes me le disent. Quand elles ont un premier rendez-vous, il y a le café quand même, on est bien élevé, mais après c'est on va où, chez toi ou chez moi, quoi, hein. Donc voilà, il faut trouver quelqu'un. Et puis il y a le téléphone, hein, on est combien pendant un truc, etc. Alors ça c'est anecdotique, mais je veux dire, chez certaines personnes ça prend, c'est-à-dire que ça démarre au réveil et on s'endort avec, hein. Donc voilà. Donc c'est toutes ces addictions ont commencé par un usage simple, comme le disait Sherazade. Après, qu'est-ce qui fait que ça devient pathologique? Elle nous en a parlé longuement, je ne reviendrai pas dessus. Alors, je vais vous donner une anecdote. Mon père, quand je lui ai dit, j'ai eu au téléphone hier, je lui ai dit, demain je serai à Paris pour CSA, il me dit, ah! Tu parleras de l'addiction à la religion, ma fille, m'a dit. Bon, c'est pour dire que dans l'usage courant, maintenant, c'est un mot qui est un peu dévoyé, mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Toute mon attention va vers ça. Bon, je ne vous cache pas qu'il est assez loin de la foi. Alors, on va faire peut-être un petit chapitre sur... comment on rentre dedans, hein, de façon psychique. Alors, comme on l'a vu, hein, notamment tout ce qui est produit, ça fait partie de nos vies. Hein, le tabac, l'alcool, même les psychotropes sont autorisés, voire parfois conseillés, dans un usage contrôlé, bien sûr. Et puis, les substances illicites sont très accessibles pour peu qu'on s'y intéresse. Quant à toutes ces addictions sans substance, il n'y a aucune, bien sûr, légalement, on est tout à fait en droit en tant qu'adulte de faire ce qu'on veut, comme on veut, avec son ordinateur, son téléphone, sa course à pied, etc. Toutes ces drogues, pour ce qui est des substances, ne se valent pas, hein, on l'a vu. Et on va faire peut-être un aparté sur la notion de satisfaction. Hein. C'est-à-dire que il faut quand même voir que ce sont des réponses adaptées à une recherche de satisfaction. Hein. C'est pas quelque chose, comme le disait Sherazade, qu'on fait parce que ça nous fait du mal, on le fait parce que ça nous fait du bien. Alors ça peut répondre, parfois ça c'est un besoin de sensation forte de plaisir. Ça arrive avec le binge drinking, ça arrive avec des soirées de jeux en réseau organisées le samedi soir, etc. Mais on y passe toute la nuit. Donc une sensation forte, ou au niveau de la drogue aussi. Mais très souvent, et ce sont eux mes patients, c'est un contrepoison à des sensations désagréables. Hein, on appelle ça des effaceurs de soucis. Donc, on voit bien que notre vecteur au monde, c'est notre corps. Hein, on est des êtres de désir, bien sûr, de relations, d'émotions, mais c'est notre corps qui transmet tout ça et qui ressent tout ça. Et c'est dans notre corps que nous ressentons notre rapport à nous-mêmes et aux autres, et c'est dans notre corps qu'on ressent bien-être ou mal-être. Et un des spécialistes dit « Les drogues constituent un moyen de faire disparaître les contraintes de ce rapport aux autres et au monde, essentiellement liées aux inhibitions et aux affects douloureux comme l'angoisse. » En résumé, notre corps va ressentir l'angoisse. Pas parce qu'on n'est pas dans l'histoire du manque, hein. On est dans l'histoire angoisse de vie. Angoisse à cause de certains événements, angoisse parce que je suis nulle, angoisse parce que je n'ai jamais été aimée, de toute façon personne ne m'aimera jamais, angoisse parce que je ne trouve pas de boulot, et puis de toute façon j'ai décidé, c'est un de mes patients, j'ai décidé de faire des ménages la nuit, comme ça personne ne me voit, et puis je ne suis pas confrontée au monde. Donc lui, il va être plutôt addict aux réseaux sociaux, enfin plutôt aux sites de rencontres, hein. Et comme il me dit, vous savez, 40 rendez-vous, je me suis pris 40 vents. Enfin, ce qu'on appelle un vent, se prendre un vent, c'est bon, ben non, on se reverra pas, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui s'est complètement éteint. Bon. Donc, il y a une réponse efficace à l'angoisse. Et ça, c'est ce qui est important de bien voir, c'est que c'est instantané et c'est intense. Que ce soit dans le jeu vidéo, journée de merde, etc., etc. Je suis nulle, de toute façon, le patron m'a dit ci, la collègue m'a dit ça, j'ai pas réussi ça. Je rentre dans mon jeu vidéo, je suis le maître du monde. Hein. Donc, mon avatar, il a réussi à faire ci, à faire ça, j'ai explosé tant de mecs et tout. Je suis le maître du monde, alors que dans ma vie, je ne suis pas reconnue, j'ai une angoisse terrible. C'est efficace et c'est rapide, je cours vers mes jeux vidéo ou je cours vers ma bière, quoi, hein. Mes bières, bien sûr, souvent. Donc, la recherche de satisfaction, c'est vraiment comme ça qu'on rentre au départ dans l'addiction. Alors, on l'a vu, il y a différents niveaux, et ces niveaux de satisfaction ne sont pas dépendants, enfin, ne sont pas en parallèle avec usage simple, usage à risque, usage nocif, dépendance, etc. Hein, donc, c'est pas des parallèles. Et il faudra bien prendre en compte cette notion de satisfaction quand on abordera le problème. Ça, je vais laisser parce que Sherazade en a parlé. Je vais quand même parler du cycle de lassuétude. Alors, dans les mécanismes d'addiction, il y a le cycle dit de la suétude, qui pousse à répéter la consommation du produit. Et là, je vais vous parler du côté, justement, effaceur de soucis. Hein ? Ça permet, c'est un anesthésiant en fait, hein. C'est un anesthésiant d'émotions négatives, de soucis, de douleurs, justifiées ou non, hein. Ça, on n'est pas là pour avoir un avis là-dessus. C'est rapide, c'est efficace. Et alors, cette efficacité va s'inscrire dans la mémoire du patient, de la personne, hein. Et ça va prendre le pas sur une autre stratégie qui demanderait plus de temps, plus d'énergie, plus d'amis, plus de réflexion, plus de capacité à supporter aussi, parce que toute souffrance n'est pas amenée à être effacée. Parfois, il faut apprendre à traverser cette souffrance, hein, il faut apprendre à traverser du désert. Certains s'y refusent, et c'est légitime quelque part. Mais donc, le produit, le jeu, la pornographie permet d'effacer tout ça sans y passer trop d'énergie, de temps, pour trouver autre chose. C'est plus facile d'aller sur son jeu vidéo, de boire sa bière, que de passer une demi-heure en prière, pour nous qui sommes chrétiens. Hein, c'est une autre démarche quand même. Hein. Je parle des chrétiens qui ont des addictions. Donc, ça, la pensée de la personne, ça va être « je vais mieux », c'est donc que c'est une bonne méthode, hein, « j'ai fait le bon choix ». Parce qu'il faut quand même se mettre en accord avec sa conscience, hein. Alors, on est ambivalent, on sait que c'est quand même pas très raisonnable, mais d'un autre côté, on se dit « oui, non, mais ça marche, c'est super clean, hein. ». Et donc, on se met en accord avec sa conscience, on se dit « j'ai fait le bon choix » et là, c'est la fausse croyance qui s'inscrit dans la mémoire. Du coup, ce consommateur va perdre peu à peu la capacité à faire face à ses problèmes autrement. Il perd l'entraînement, il perd le réflexe, il perd la confiance en ses capacités, parce que un jeune qui commence à avoir ses premières mauvaises notes, parce que par exemple le passage en quatrième c'est compliqué, par exemple le passage en quatrième c'est compliqué, d'un seul coup ceux qui étaient intelligents ils sont obligés de bosser, et ça c'est une découverte. Jusqu'à présent j'écoute en cours, je fais vite fait mon truc, 15 de moyenne. Quatrième, qu'est-ce qui se passe? Il y a une exigence supplémentaire. J'écoute en cours, je regarde vaguement, je me tape 7, insupportable au départ. Et puis, comme me disait un jeune homme, il disait « finalement, on s'habitue aux mauvaises notes ». Alors qu'il avait été brillant, « finalement, on s'habitue aux mauvaises notes ». Mais on s'y habitue comment? Très souvent avec un peu de cannabis aussi. C'est une super zen. Et donc, au lieu de se mettre dans cette démarche de travail, il perd, alors lui, certains ne sont même pas rentrés là-dedans, il perd cette capacité à se mettre au boulot et il va trouver une solution autre. Du coup, il perd aussi confiance en ses capacités, parce que notre système français, par exemple, ne va pas, face aux élèves, excusez-moi s'il y a des enseignants, dire « mais quelles sont tes ressources, on va tirer quelle ficelle et tout ?» On va dire, on va pointer les insuffisances. Et donc, l'enfant, l'ado, va lui aussi s'emparer de ce jugement et perdre confiance en ses capacités. Il perd la patience aussi, hein, de mettre en place une nouvelle stratégie, et du coup, il ne peut pas avoir de résultats. Se greffe par-dessus une culpabilité, bien renforcée souvent par l'entourage, sur la paresse, l'incompétence, ou le peu de résistance à la souffrance et à l'angoisse. T'es un peu chochot, t'es un peu nul, etc. Hein. Voilà, ça fait encore remonter d'un cran les ressentis négatifs jusqu'à en être submergé et se précipiter sur le produit anesthésiant. Alors bien sûr, les problèmes vont empirer. Hein, pour le collégien, ça va être les notes, la confiance en soi. Pour l'adulte, ça va être des relations sociales qui vont être esquintées, conjugales. Et puis, Sherazade nous en a parlé, ça peut être les finances, ça peut être des problèmes avec la justice, etc. Et se développe en plus un sentiment d'impuissance qui va essayer, parce qu'il faut s'en sortir dans l'ambivalence de se dire non mais en fait je gère. Alors les facteurs de vulnérabilité de protection sont multiples, hein, on en a déjà parlé, biologique, on n'a pas tous le même potentiel au départ, hein. La personnalité, il y a des personnalités qui sont plus combatives que d'autres, il y a des personnalités qui sont un peu hypersensibles, et dès qu'il y a une, par exemple une vexation, ils se sentent terriblement humiliés, c'est la fin du monde, et ils sont à ramasser à la petite cuillère, alors que d'autres, c'est le regard des autres leur importe peu, hein, dans leur personnalité, ils sont plus solides. Il y a l'environnement, il est évident que si votre mère en est à son cinquième compagnon et que sur les cinq, il y en a deux qui ont eu des attouchements avec vous, vous êtes quand même moins costaud que si vous avez papa et maman qui vous aiment, qui sont contenants, qui font du sport le week-end et de la musique régulièrement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc cet environnement est très différent. Il y a des expériences de dépassement de soi qui sont différentes. On constate quand même que chez des personnes, alors je parle plutôt des jeunes là, qui ont l'habitude de faire des compétitions ou d'aller au conservatoire, etc., qui ont cette habitude de se donner, d'accepter l'échec, qui n'est pas vécu comme un échec, mais un apprentissage, et je peux faire mieux la prochaine fois, pour peu qu'ils aient des coachs ou des profs qui sont motivants. Voilà, ceux-là sont... il y a vraiment un facteur de protection, hein. Et comme j'ai été enseignante dans une autre vie, et parfois j'avais des enfants qu'on appelle à haut potentiel, hein, des gamins super bons, et j'encourageais souvent les parents parce que bon, c'est des gamins qui peuvent s'ennuyer en classe, qui sont pas toujours faciles à vivre, hein. Et j'encourageais souvent les parents à les mettre dans un club de sport ou de musique en disant quelque chose où ils puissent en baver un peu, qu'ils apprennent l'effort. Hein, parce que même si on est à haut potentiel, il y a des activités qui demandent de l'entraînement et donc le sens de l'effort. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit développer. Sens de l'effort et valorisation en permanence, hein. Pas sens de l'effort, tu peux faire mieux, oui mais regarde ça va pas, etc., etc. Donc cette confiance en soi qui s'installe est quand même un point très positif. Qu'est-ce que je vous dirais encore? Donc les attentes extérieures, hein, c'est compliqué dans notre société actuelle parce qu'il faut être bon en tout, hein. Et il y a l'estime de soi qui peut dégringoler assez vite. Alors moi en tant que femme, je dirais, nous femmes, il faut qu'on soit, si on est marié, des bonnes épouses, si on a des enfants, des bonnes mères, des bonnes amantes, des bonnes voisines, des bonnes professionnelles, des bonnes tout, hein. Les hommes pareil, les enfants pareil, en plus il faut avoir de l'humour et maintenant il faut être heureux en plus, hein. Il faut montrer qu'on est super cool, et donc les bouquins de bien-être, d'épanouissement personnel et tout sont partout, et c'est compliqué d'avoir une bonne image de soi quand on rentre pas dans les clous, hein. Donc ça aussi c'est un facteur de risque, je dirais, de se couler dans ces exigences sociétales, familiales, etc., ecclésiales, hein, parce que même dans les églises il y a des exigences, bon voilà. Alors je ferai une petite parenthèse sur la notion de bien-être subjectif. Bien sûr, un état de mal-être va être un facteur favorisant au recours à une substance, hein. Mais les conclusions récentes des études sur les notions de bien-être et mal-être affirment que les facteurs externes prédisent très peu le bien-être subjectif. Ce sont les facteurs internes, alors je vais m'expliquer un petit peu plus, qui sont le plus porteurs d'influence. Alors les facteurs internes, on en a parlé un petit peu, ce sont les traits de personnalité, ce sont la capacité à avoir des objectifs, se projeter, c'est aussi la capacité d'adaptation, réajustement, J'ai des objectifs, mais ça va se passer comme ça et pas autrement. Or, il va y avoir des problèmes qui vont arriver dans ma vie, un conjoint qui n'est pas d'accord, une grippe qui m'empêche de... Qu'est-ce que je fais ? Voilà, etc. Je ne supporte pas ou j'apprends à m'ajuster. Et c'est le gros travail éducatif qu'on doit faire aussi auprès de nos enfants, de nos étudiants, de tout ça. C'est cette idée de contrariété, empêchement. Et on est bien comme ça dans notre vie chrétienne. Hein. Même si on a un appel, une mission, on peut dire que des galères, on en traverse. Comment je réajuste ? Comment je réfléchis ? Comment je change ? Je tire des bords, hein, parce que parfois, bon, pour certains qui font de la voile, on aimerait bien avoir la balise et hop, on fonce. Mais non, on est obligé, selon le vent qui vient, de tirer des bords pour arriver à l'objectif, certes, mais voilà, on ne s'y prend pas de la façon qu'on pensait être la plus simple. Donc c'est très important d'apprendre ça. Et puis... Alors cette capacité d'adaptation, c'est pas du renoncement, hein. C'est pas du fatalisme, du genre c'est la vie, etc. Non, c'est réfléchir. Et puis c'est la capacité à restructurer ses pensées. C'est-à-dire qu'on a parfois des croyances, d'ailleurs j'ai apprécié ta prière Colette, en disant voilà, qu'on sorte un peu de nos clichés, de nos préjugés. L'addiction, c'est ça, ou la dépression, c'est ça, l'anorexie, c'est ça. Toujours être au plus proche de la personne, de soi-même, bien sûr, déjà, hein, de nos clichés, notre propre justice, comme disait Michael. Hein. Prostituée, mon Dieu, quelle horreur, etc. Ne pas voir au cœur, mais donc de nous-mêmes, savoir nous remettre en question, mais voir les autres aussi, selon qui ils sont, et non pas... porteurs de telle addiction. Hein, ceux qui ont un cancer détestent être pris pour un cancéreux, ceux qui ont une addiction détestent être pris pour un alcoolique. Ils sont une personne qui souffre d'alcoolisme, ils sont une personne qui souffre de cancer. Hein, voilà. Donc, restructurer nos pensées. Donc, il faut se méfier des raccourcis du type « il ou elle a tout pour être heureux ». Franchement, cette addiction c'est du luxe, cette dépression c'est du luxe, cette anorexie est incompréhensible, je ne comprends pas ce qui lui manque. J'ai une personne en thérapie qui n'arrête pas de me dire « j'ai tout pour être heureuse ». Et bon, elle... alors oui, une petite parenthèse, les gens qui viennent me voir ne viennent pas me voir parce qu'ils ont une addiction, ils viennent me voir parce qu'ils souffrent, hein, ils ont une souffrance psychique. Et très souvent, c'est qu'au bout de la troisième, quatrième séance, qu'ils me parlent de leur dépendance aux réseaux sociaux, aux sites de rencontres, à l'alcool, au cannabis. C'est celle que je rencontre. Le tabac, ils n'en parlent même pas parce que pour eux, c'est pas gênant. Donc c'est après qu'ils en parlent, une fois que la relation de confiance est installée. Et donc cette femme donc m'a appris qu'elle buvait énormément, et elle me dit « j'ai tout pour être heureuse ». Donc son mari est pilote de ligne, elle-même ne travaille pas, ils n'ont pas d'enfants parce qu'ils ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, elle a une maison magnifique avec sa piscine, ils ont des motos, en veux-tu, en voilà, c'est « j'ai tout pour être heureuse ». Pourquoi est-ce qu'elle souffre, cette femme ? Pourquoi est-ce qu'elle a une notion de mal-être si fort ? Bien, effectivement, ce ne sont pas les facteurs externes. Hein ? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'en sort pas ? Eh bien, elle a tout, oui, sauf une communication réelle avec son mari et pas de relation sexuelle non plus. Donc, voilà, elle a ce manque interne. Elle se dit, mais c'est pas grave, à côté de tout ce que j'ai, il y a plein de choses que... C'est pas grave, oui, mais sans communication avec son conjoint. Est-ce que vous pensez que la relation conjugale, l'estime de soi peut être correcte ? Non.
Et pourquoi il n'a pas de relation ?
Parce que lui a eu un problème, et ça fait 12 ans maintenant qu'il est impuissant. Voilà. Donc ils ont vécu des choses belles et bonnes, et depuis 12 ans, donc il est impuissant. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qu'on ne s'autorise pas à penser « j'ai le droit d'être malheureuse ». Donc, on va prendre quelque chose pour se rendre heureux et qu'aux yeux de la société, on paraisse quelqu'un d'épanoui. Sauf qu'on s'écroule en séance de thérapie. Monsieur G, un autre patient, il a un boulot, une femme qu'il aime, sa femme attend un bébé, mais il a un terrible sentiment d'impuissance. C'est facteur interne. Et donc on a travaillé ça avant même de savoir qu'il y avait cette dépendance à l'alcool d'ailleurs, on a travaillé ce sentiment d'impuissance. Et sur quoi est-ce qu'on est arrivé? Pourquoi est-ce qu'il se dévalorise autant? Bien, je vous en reparlerai peut-être au moment des thérapies. À l'âge de 3 ans, il me dit « J'ai brûlé ma petite sœur. J'ai brûlé ma petite sœur. » « Ah bon, vous avez brûlé votre petite sœur ?» Oui, j'avais 3 ans et ma sœur avait 1 an et demi et je l'ai mise dans le lavabo et j'ai ouvert le robinet d'eau bouillante et donc elle a été brûlée au troisième degré sur un côté. Comme ça, je dis « 3 ans, vous vous rappelez ?»« Ah non, je ne me rappelle pas. » Mais où était votre maman? Elle aimait beaucoup être dans le jardin, elle était dans le jardin. Vous aviez 3 ans et 1 an et demi, vous étiez tous les deux seuls dans la maison. Oui. Et vous pensez qu'un enfant de 3 ans porte une petite fille d'1 an et demi, la met dans le lavabo, ouvre tout ça? C'est ce que maman m'a dit. Donc cet homme, il a 44 ans. Et donc 41 ans après, il reste traumatisé par l'idée qu'il a brûlé sa sœur. Il n'en a aucun souvenir, sa maman n'était pas là, il avait 3 ans. Et je lui dis, mais monsieur, est-ce que votre maman n'aurait pas dû être dans la maison? Ben oui, mais elle aimait beaucoup être dans le jardin. Est-ce que votre maman vous a vu la mettre dans le truc? Non, mais quand elle est arrivée, je pleurais, je criais à côté de ma sœur. Je dis, monsieur, je comprends votre maman qui n'a pas envie de se sentir responsable, mais vous n'êtes pas responsable. Et il s'est écroulé. Ça faisait 40 ans que cet homme se disait « J'ai brûlé ma sœur ». Alors, peut-être qu'il l'a mise, peut-être qu'elle a été brûlée, etc. Mais je veux dire, cette responsabilité qu'on a fait porter à cet enfant de 3 ans, c'est un traumatisme qu'on retrouve à 44 ans, vous imaginez? Dépendant à l'alcool. Non, mais j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie. Et quel mal! J'ai brûlé ma petite sœur. Et elle est repartie. Donc, vous voyez, on n'a pas tous reçu le même potentiel de réponse face à la frustration, face à l'angoisse. Et on n'a pas la même aptitude à se remettre en question et à remettre en question ce qu'on a voulu nous faire croire. Ressentir un mal-être interne est vraiment un facteur favorisant pour l'addiction. Alors quand on connaît un tant soit peu les caractéristiques de l'adolescence, hein, sur le mal-être interne, sur le remaniement identitaire, qui je suis, est-ce que je veux être comme mes parents, pas du tout comme mes parents, comme les potes, etc. C'est très angoissant et on voit bien que cette période est critique pour l'entrée dans les addictions. Je vais vous apporter trois éclairages différents de spécialistes. Je parlerai en premier de Philippe Jamais, qui est un grand spécialiste de l'adolescence, lui. Et pour lui, la destructivité, c'est la créativité du pauvre. Alors, je m'explique. C'est pas pauvre ni financièrement, ni en esprit, c'est pauvre en ressources psychiques. C'est-à-dire que Dieu nous a créés pour intervenir. Il n'est pas chrétien, mais moi, je me reconnais dans ce discours. Dieu nous a créés pour être acteurs de notre vie, acteurs libérés, bien sûr, de l'esclavage du péché, mais acteurs. Hein, nous ne sommes pas toute la journée à dire Alléluia. Le Seigneur, même si on le dit, on agit, on contrôle. On se contrôle soi, on contrôle le monde, on assujettit la terre. Or, certaines personnes ne savent pas comment agir. Face au danger, notamment, hein, face au danger, on a différentes réactions possibles, hein, l'attaque, la fuite, la soumission ou la création, réflexion, ajustement. Et certaines personnes n'y arrivent pas. Et donc, puisqu'ils ne peuvent pas être créateurs face au danger, ils vont être destructeurs parce qu'ils créent la destruction. Et que quelque part, créer la destruction, c'est créer. Donc, ils sont dans le contrôle. Et on peut le voir avec Daesh, etc. Hein, c'est un peu l'addiction à la violence, je dirais. C'est-à-dire, j'agis, je participe. Et détruire, pour eux, c'est être acteur. Et quand on se détruit soi-même, par exemple, certaines personnes se scarifient. Et ce médecin disait, il avait une jeune femme qui se scarifiait, et il lui disait, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous faites du mal? Elle dit, parce que quand je me fais du mal, ça me fait du bien. Alors il lui dit, bon, bah, écoutez, moi je suis un mec très empathique, hein, je suis là pour vous, donnez-moi votre lame de rasoir, et puis je vais vous scarifier pour vous faire du bien. Il dit, mais ça va pas. Et pourquoi pas? Ben, vous allez me faire mal. Il dit, ah, quand c'est vous qui faites, ça fait du bien, c'est-à-dire elle est actrice. Si c'est l'autre, vous êtes dans la soumission et ça c'est intolérable. Et c'est pareil pour les jeux vidéo. Ce jeune homme de 24 ans qui est sur certains jeux, dont un s'appelle LOL, truc de légende, je me rappelle plus du nom exact. Si vous lui dites, ah, t'en es à tel niveau, si tu veux je te le finis parce que moi je suis allé plus loin. Ah non, c'est moi. C'est moi qui vais être maître du monde. C'est moi qui vais créer. C'est moi. Et donc, ce côté-là, cette addiction, c'est quand même dire je choisis de mourir quelque part. Je choisis d'aller mal. Je choisis, mais c'est moi. Alors, je ne parle pas. Je vous parle de cela parce que cela va être. Ça va être compliqué de les faire sortir de l'addiction parce qu'il n'y a pas de désir à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils sont dans la satisfaction de leur dépendance. Pour Coutron, Jean-Pierre Coutron, l'entrée dans le monde de la dépendance, c'est la difficulté d'être soi dans un monde codé. Comme je vous en parlais tout à l'heure, se réaliser, être reconnu est devenu le Graal. Et il faut être en plus épanoui. Épicure dit, tout plaisir est un bien, et pourtant tout plaisir n'est pas à rechercher. De même, toute douleur est un mal, mais toute douleur n'est pas faite pour être évitée. 300 ans avant Jésus-Christ. Pour nous chrétiens, ça nous parle. Toute douleur n'est pas faite pour être évitée. J'ai reçu cette semaine une dame de 52 ans. C'était la première rencontre. Et elle est veuve depuis 3 semaines. Son mari a eu un cancer du poumon, très gros fumeur. Cancer du poumon, ça a été diagnostiqué en septembre. Et donc en février, février, il est décédé. Donc ça fait un peu plus que 3 semaines. Ça fait 5 semaines qu'il est décédé. Et elle me dit, je suis désolée, parce qu'elle pleurait. Je lui dis, mais madame, vous avez perdu votre mari il y a 5 semaines, vous avez le droit de pleurer. Vous savez, le médecin m'a donné un somnifère pour dormir, mais je crois que je vais arrêter. Je lui dis, mais pourquoi arrêter, madame? Parce que je ne veux pas de médicaments. Mais je lui dis, mais les médicaments sont là pour vous aider pour un temps. C'est-à-dire que elle se culpabilisait d'être malheureuse, de prendre un médicament. Hein? La douleur, elle est là, on va la vivre ensemble, mais il y a une douleur. Vous ne pouvez pas être coupable d'être malheureuse d'avoir perdu cet homme que vous avez connu à 20 ans, qui a été votre mari à 22, et depuis 30 ans vous étiez ensemble. Toute douleur ne doit pas être évitée. Certaines douleurs, il faut y passer. Le désert, la tentation dans le désert, toute douleur ne doit pas être évitée. Alors, les accompagner, les soulager, oui, bien sûr, on n'est pas là à se dire « Non, j'ai mal à la tête, et oh, je vais tenir !» Non, on accompagne, on essaye de soulager, mais on pose le mot « C'est extrêmement violent ce que vous vivez en ce moment. C'est très douloureux ce que vous vivez en ce moment. » Il ne s'agit pas de lui dire « Bah, vous en trouverez un autre, hein ?» Il faut pouvoir créer pour chacun un désir de sortir de la dépendance tout en le respectant dans son individualité. Il n'y a pas, j'ai beaucoup aimé, Sherazade, que tu insistes sur le fait qu'il y a un individu avec une addiction, il n'y a pas un alcoolique, un héroïnomane, etc. Hein? Et donc, le psychologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans ce tricotage individuel, hein, de personnalité, expérience de vie, santé, histoire de vie de la personne, pour voir ce qui a du sens pour elle. Et il va l'accompagner dans la découverte de ses potentialités, parce qu'il va falloir chercher les ressources, et de ses fragilités acceptées. L'autre jour, j'entendais un interview à la radio de Lucchini, cet homme qui est quand même une sacrée personnalité, qui semble assez sûr de lui et qui dit « Je suis un grand angoissé, je le sais. J'ai fait du psychanalyse, j'ai fait tout ce qu'il faut. Je reste un angoissé, mais je vis avec. » Oui, nous avons des fragilités. Pour certains, ça va être la colère facile. Pour d'autres, ça va être peut-être l'envie, tout ça. On pose un mot dessus, on accepte et on va travailler dessus. Mais on ne dit pas juste « péché » et puis « il faut lutter par le sang de Jésus-Christ », etc. Oui, j'ai des fragilités. Oui, je vais travailler dessus. Oui, le sang de Jésus va me libérer. Mais pour certains, sont guéris par miracle. Hein, comme un cancer, on connaît tous une personne qui a été guérie de façon miraculeuse, et puis d'autres, c'est pas à pas. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? Donc déjà, effectivement, les addictions ne se valent pas en toxicité, en dépendance, en satisfaction, en effet contre effet, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que pour en sortir, il faut être insatisfait, hein. Et ce n'est pas toujours par le raisonnement. J'étais très étonnée, par exemple, par ce jeune homme qui était déjà très dépendant à la cigarette et qui a décidé d'arrêter parce qu'il avait les dents jaunes. Et que ça, dans une période de séduction, ce n'est pas possible, quoi. Hein ? Alors, vous travaillez sur d'autres trucs et finalement, c'est ce truc-là qui va avoir gain de cause. Et tant mieux ! Et tant mieux ! Monsieur G, qui est une dépendance à l'alcool, finalement, qu'est-ce qui a été déclencheur chez lui ? C'est qu'à un week-end d'église, il a fait un style de crise d'épilepsie de manque. Hein, parce que, bien sûr, il n'a pas voulu boire pendant le week-end d'église, et en fait, ça a débordé. Et il s'est senti très humilié. Mais personnellement, parce que les gens n'ont pas compris, les gens ne connaissaient pas sa dépendance. Mais lui, il s'est dit, non, mais ça ne peut pas continuer, quoi. Et voilà, et il a entamé un sevrage. J'ai une jeune femme qui vient en thérapie. Alors elle me dit qu'elle a un compagnon super cool, parce qu'elle est un peu nerveuse. Et je lui dis, et on parle de l'addiction cannabis, non mais lui il prend 10 pétards par jour. Je dis, ah ben il peut être cool. Il peut être cool. Et elle me dit, mais elle n'est pas très dépendante puisqu'elle n'en prend que 5. Et donc on discute, etc. On rit un peu. Et à la fin, elle me dit, la deuxième séance, elle me dit, bon, mon compagnon veut pas que je vienne parce que ça coûte trop cher. Alors je lui dis, bah, écoutez, oui, effectivement, il y a une solution, c'est peut-être de réduire la consommation de cannabis pour pouvoir venir en thérapie. Parce qu'elle ne vient pas pour sa dépendance, hein, elle vient pour d'autres problématiques. Et donc maintenant, on a un peu un deal, elle vient tous les 15 jours, alors elle dit j'en prends toujours 5 mais j'en mets moins, et comme ça, je peux me payer mes 50 euros de thérapie. Amen. Et elle me dit, et j'ai l'impression que ça fait de l'effet sur mon compagnon parce que je trouve qu'il en prend moins. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas toujours comment ça va se déclencher, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'insatisfaction. Parce que tant que la personne est contente, tant qu'il n'y a pas de dommages collatéraux ou qui sont inférieurs dans son esprit à ce qu'elle vit, ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc, les mécanismes d'entrée sont communs quand même, hein. Au-delà des principes neurologiques, c'est effectivement la rencontre entre l'individu, le produit et l'environnement. Et c'est la mémoire de satisfaction qui démarre l'engrenage. Comme le disait Sherazade, j'ai pris un pétard, ça ne m'a rien fait, je ne vais pas dépenser pour que ça fasse rien, hein, je laisse tomber. Hein. Et s'il y a la satisfaction, ça peut démarrer sur l'addiction, ça peut aller jusqu'à l'addiction. Dans les personnes que je reçois, mais bien sûr, je ne reçois pas les gens qui n'ont qu'un problème et tout va bien, qu'un problème d'addiction et tout va bien, je reçois les personnes qui viennent parce que ça ne va pas bien. Et ce qui ne va pas bien très souvent, c'est un sentiment, alors on dit des personnes insécures, je pense que c'est un anglicisme finalement, hein, qui n'arrivent pas à répondre aux injections familiales et sociétales. Alors certaines ont vécu de réelles carences affectives dans l'enfance. c'est vrai. Mais rééduquer un comportement sans supprimer la cause ne va pas être efficace longtemps. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut faire un travail de déshabituation du produit, etc., etc. Mais si l'angoisse qui est liée, par exemple, à un environnement insécure, à des violences, à des négligences d'avant, ou le chômage, etc., si tout ça n'est pas réglé en parallèle, ça va être compliqué. Hein. Donc l'accompagnement, pour moi, ne peut se faire qu'au prix d'une prise en charge multiple, hein, médicale, de réassurance. Hein. Moi, je passe mon temps à dire à mes patients, mais vous le valez bien, mais vous êtes une belle personne. Parce que et j'ai une femme qui est quand même cadre, qui a une très belle situation, etc. Et je lui dis, si vous saviez, comme je suis fière de vous, je lui dis. Et elle s'est mise en larmes. Comme je suis fière de vous. Parce que, elle avait, je ne vais pas raconter. Et elle me dit, excusez-moi, j'ai du mal avec les compliments. Je passe beaucoup de temps à valoriser mes patients parce qu'ils ne savent pas qu'ils le valent bien. Donc, thérapie, ouverture vers de nouvelles ressources, hein, un problème après l'autre, aujourd'hui, demain, etc. Mais pas des objectifs dans 10 ans. Puis des nouvelles expériences de vie aussi. Donc on a besoin, par exemple dans une église, de frères et sœurs. Tu viens, on fait une journée à la montagne, tu viens avec nous. Enfin je dis à la montagne parce que nous on est à Biarritz, donc c'est assez près. Voilà, il va y avoir plein de choses. Les frères et sœurs de l'église, il faut plein de prises en charge, mais petites, ponctuelles. Donc, en thérapie, je dirais qu'il y a différentes approches. Il y a bien sûr les thérapies comportementales et cognitives, où on cherche à déshabituer les personnes de leurs croyances, de leurs schémas de pensée, et à en coller des nouvelles, que ce soit au niveau de la pensée ou des comportements. Donc, le travail va consister à déconnecter, par exemple, ce monsieur qui buvait. Alors au début il m'a dit non, je prends 3 bières par jour. Après il m'a craché le morceau entre guillemets, parce que pour lui c'était important d'être dans le vrai. Il commençait le matin avec la bière et il en prenait 2 à midi et il en prenait 3 ou 4 le soir. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que il était seul et c'était plus simple de prendre une bière que de téléphoner, d'aller faire un footing, etc. Donc il faut déconnecter la fatigue de la compensation facile. Donc il faut travailler avec lui un nouveau planning. Et ça, c'est ce qui se passera dans les thérapies comportementales et cognitives. Hein. Tenir un carnet de route qui permet d'analyser les circonstances, qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que ça m'a fait au moment où j'ai bu? Est-ce que j'avais bonne conscience, mauvaise conscience? Voilà, on retravaille tout ça. Hein. L'approche psychanalytique, elle part du principe que nous avons engrangé dans notre inconscient des angoisses, des schémas de réponse, des mécanismes de défense qui vont formater nos réactions et nos comportements. Et donc on part à la découverte de notre construction identitaire. On va aller un peu plus vers le passé. On reste aussi dans le présent, hein, mais qu'est-ce qui fait que vous pensez comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu des petits traumatismes comme cet homme avec « j'ai brûlé ma sœur » ou ce jeune homme qui est donc addict des sites de rencontres et qui est très déprimé. Et je lui dis « mais est-ce qu'il y a des personnes déprimées dans votre famille ?» Oui, papa est en dépression. Il détestait son boulot, mais depuis qu'il est à la retraite, il fait une dépression. Et votre maman? Non, ma maman, elle va bien. Bon, enfin, ça fait 15 ans qu'elle est sous antidépresseur, mais elle va bien. D'accord. Et après, il me dit, mais vous savez, ma sœur, ça vient pas de là, parce que ma sœur, en fait, elle va super bien. Ma sœur, elle réussit tout ce que je rate. Elle a un mari, des enfants, un bon boulot, elle va bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez, pour la prochaine fois, parce qu'il me demandait toujours des devoirs, vous savez, vous avez des patients qui disent « qu'est-ce que je peux faire d'une fois sur l'autre hein ?» Je dis « ce que vous pouvez faire, c'est demander à votre maman comment elle allait au moment où vous êtes née. » Parce que je crois beaucoup à l'attachement, à la, voilà, ce climat de sécurité qu'on donne au bébé. Et il revient et me dit, maman m'a dit que c'était la pire période de sa vie. Parce que sa belle-mère, qui avait un Parkinson avancé, avant de savoir ce qu'ils allaient faire, ils l'ont prise à la maison pendant que maman était enceinte et ils l'ont gardée tous les premiers mois de ma vie. Et maman n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Et votre sœur, ben non, ma sœur, elle a 3 ans de plus. Et on peut se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à travailler. Alors, il ne s'agit jamais de culpabiliser les parents, il s'agit de dire à la personne, peut-être que dans votre construction, ça a été compliqué. Et peut-être que là, vous avez le droit de vous dire, bah, c'était plus difficile pour moi. Rien que ça, de se dire, bah, c'est normal, c'était plus difficile pour moi. C'est pas, j'ai été plus nulle que ma sœur, c'était, je ne suis pas partie avec les mêmes armes. Donc, pour moi, ça va être un travail, ce qui était une évidence chez elle. Voilà, donc ça c'est un peu l'approche psychanalytique. On travaille aussi beaucoup sur l'angoisse d'abandon, l'angoisse d'intrusion, parce que ces personnes qui n'ont pas été aimées, celles qui souffrent je ne dis pas que tous ceux qui ont une addiction ont été mal aimés, pas du tout. Celles-ci, y a cette notion de quand on aime, on fait du mal. Et donc il y a une ambivalence entre ce qui fait du bien et ce qui fait du mal. Parce que la personne, par exemple, qui a été abandonnée par sa mère et dont le père a eu des attouchements, c'est quand même des cas que je rencontre, il a besoin d'aimer sa mère, il a besoin d'aimer son père. Donc il se met en place une espèce de schéma psychique, quand on aime, on fait du mal, ou quand on aime, on abandonne. Et donc il va être sur l'ambivalence bon-mauvais, un peu comme Winnicott qui parlait de la bonne mère, il faut être une mère suffisamment bonne, il ne faut pas être une mère complètement bonne. Et bien il va se mettre ça, il va se le mettre à sa sauce, et quand on aime, on fait du mal. Et donc un produit, on l'aime, il nous fait du mal. Vous voyez ? Mais on est bien avec ça, puisqu'on a grandi avec ça. Et donc il y a cette angoisse d'abandon. Et on le gère, par exemple, ce sont des personnes qui ont du mal dans les relations amoureuses. Dès qu'on les aime un peu trop, ils se mettent en position que ça casse. Parce qu'ils préfèrent abandonner que d'être abandonnés. Et puis si on les aime trop, c'est de l'intrusion d'un seul coup. Donc on travaille ça dans la thérapie. Donc en conclusion, je dirais qu'il faut comprendre, aimer, soigner, entourer. Pas de raccourci, quand on veut, on peut, et surtout pas dans nos églises. Oui, oui, il y a la grâce, oui, mais nous sommes malheureusement dans un monde compliqué, dans un monde où il y a le péché, où il y a des tentations. Oui, il y a la grâce, oui, et moi je le dis à mes patients, mais oui, vous allez vous en sortir. Et quand mon patient est chrétien, je dis, nous allons prier ensemble pour la libération, pour la délivrance. Oui, mais il ne suffit pas de dire quand on veut, on peut. Qui ici n'est pas en lutte contre un trait de son caractère et moi j'ai 58 ans et je me dis, mais des fois, je suis encore là-dessus. Et bon, mais je continue. Je continue. Donc il faut que la personne adhère au sevrage, mais qu'elle reconstruise son emploi du temps, qu'elle mette en place des stratégies oubliées. Les stratégies du comment faire face. Il faut qu'elle gère le manque, qu'elle s'autonomise par rapport au regard des autres, qu'elle accepte ses vulnérabilités, qu'elle coupe avec certains potes, parfois. Et ça, c'est pas facile. Les potes de galère et les potes de fête. Qu'elle ne doit pas s'auto-flageller sur le temps perdu, sur l'argent perdu, les amis perdus, la femme perdue, mais qu'elle court en avant comme Paul nous le dit. Il ne s'agit pas d'avoir une bonne conscience à bon compte, de se dire c'était pas grave. Il s'agit de se dire je veux être enthousiaste pour cette vie nouvelle. Faire confiance aux professionnels, le big boss, Dieu, et ses ouvriers. Chacun pour sa part, le médecin, le psychologue, les frères et sœurs de l'église, la famille, les amis, chacun dans ses compétences. Ne pas chercher quand on est psy à être le médecin, ne pas chercher quand on est le frère ou la sœur d'église à être la personne qui va le coacher coûte que coûte, etc. Ne pas être le pasteur quand en fait on n'est pas très à l'aise avec la compréhension comme l'a fait Michael. Restons dans notre part, mais ayons de l'amour. Voilà.